On est dans le néant total et on ne sait pas. On a cherché partout, auprès de ses amis, auprès de la famille. On a fait des recherches dans les champs, le long de la voie ferrée. Même si elle allait dormir une nuit chez son copain, elle rentrait tout le temps. Ou alors elle envoyait un message, ça n'est jamais arrivé.
Bonsoir. Deux femmes ont-elles été tuées au nom d'un désir de toute puissance? La maîtresse et l'épouse ont-elles succombé sous les coups d'un même homme? Deux morts qui auraient fait l'objet d'une mise en scène, une disparition pour la première, Anaïs Guillaume, un accident pour la seconde, Céline Gillet, et dans les deux cas, l'ombre de l'agriculteur Philippe Gillet. Il va devoir répondre de ses crimes dans quelques jours, du 6 au 23 avril, devant une cour d'assises d'appel. Procès qui s'annonce spectaculaire, car entre la première comparution de l'agriculteur et celle-ci, le dossier a totalement changé de physionomie. Le corps d'Anaïs Guillaume a été retrouvé. La ferme des Ardennes est redevenue l'épicentre d'un dossier qui semble concentrer à lui tout seul violence, mensonges et manipulations. Tout cela dans le huis clos d'une exploitation agricole avec un maître des lieux, Philippe Gillet, qui a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Amant jaloux, mari brutal, l'agriculteur est-il le tueur machiavélique, parfois dépeint par les enquêteurs, le taureau des Ardennes, comme on l'aurait surnommé? Avec nos invités, nous allons ce soir répondre à ces questions et à bien d'autres qui vont se poser très bientôt aux jurés de la cour d'assises de la Marne.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, le dossier Philippe Gillet, un agriculteur au cœur d'un lourd dossier criminel. Histoire qui débute au printemps 2013 avec une absence inexpliquée. Ce vendredi 19 avril 2013, Fabrice Guillaume, le père d'Anaïs, vient signaler la disparition de sa fille de 22 ans. Voilà trois jours qu'elle n'a pas donné de ses nouvelles. La dernière fois qu'il l'a vue avec son épouse, c'était donc il y a trois jours, le mardi 16. Dans la maison familiale, à Blagny, un village des Ardennes tout proche de la frontière belge. Elle partait rejoindre un agriculteur du coin avec qui elle entretient une liaison. Un certain Philippe Gillet, qui possède une ferme dans la localité voisine de Fromy. C'est d'ailleurs Gillet qui a prévenu le père de l'absence d'Anaïs. Les gendarmes se rendent donc à la ferme. Philippe Gillet, 40 ans, est interrogé. Il est naturellement le témoin numéro 1, puisqu'il est la dernière personne à avoir vu en vie Anaïs Guillaume. L'agriculteur, un colosse au crâne chauve, ne fait pas de difficulté à raconter ce qu'il sait. Le mardi 16 avril, il indique avoir passé l'après-midi avec Anaïs à travailler dans ses champs à Fromy. Anaïs est ensuite repartie chez ses parents vers 22h45. Il lui a envoyé un SMS pour lui demander de venir passer la soirée chez un couple d'amis. Après avoir bu quelques verres, l'agriculteur dit être rentré chez lui en compagnie de la jeune femme dans sa maison de Margu. Le couple s'est couché vers 4h30 du matin. Philippe Gillet dit s'être réveillé et a constaté qu'Anaïs n'était plus là. L'agriculteur raconte qu'il s'est dirigé vers la fenêtre de sa chambre. Il a alors noté que la voiture de la jeune femme, une Toyota Starlet, n'était plus devant chez lui. Il n'a pas entendu la voiture démarrer car, dit-il, il a le sommeil lourd. Il habite entre la nationale et la voie ferrée et il n'entend jamais rien. Il a essayé de joindre Anaïs, lui a envoyé un SMS mais est tombé sur sa messagerie. Il dit ne pas s'être vraiment inquiété car cette femme, qui partage occasionnellement sa vie depuis quelques mois, a l'habitude de s'absenter sans prévenir. Il lui arrive même de disparaître pendant quelques jours. Anaïs était arrivée comme stagiaire à la ferme en juillet 2011. Une dizaine de mois plus tard, après le dramatique accident qui a coûté la vie à son épouse, ils sont devenus amants. Elle ne travaille plus à la ferme, mais leur relation se poursuit. Le lendemain, mercredi 17 avril, Gillet a de nouveau essayé de joindre Anaïs en vain. Des amis chez qui elle devait se rendre lui ont dit qu'elle n'était pas passée. Il a alors téléphoné au père de la jeune femme. Samedi 20 avril, l'affaire prend une tournure dramatique. La voiture d'Anaïs s'est retrouvée de l'autre côté de la frontière belge par les gendarmes de Florentville. Le véhicule se trouvait dans les bois de Chameleux, à 11 km seulement de la ferme de Gillet. La Toyota Starlet a complètement brûlé. Les plaques d'immatriculation ont été démontées. Aucune trace de sa propriétaire. Anaïs Guillaume demeure introuvable. Bonsoir Philippe Dufresne.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'Union L'Ardennais, journal évidemment de l'Est de la France, et vous couvrez cette zone, vous connaissez très bien cette affaire. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Alors Philippe, nous sommes là au tout début de l'affaire. On va, si vous le voulez bien, d'ores et déjà présenter un petit peu la galerie de ces personnages. Commençons, si vous le voulez bien, par la disparue Anaïs Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le portrait de cette jeune femme ?
Anaïs Guillaume, c'est une jeune fille comme beaucoup d'autres, je veux dire, elle a sa part d'insouciance, sa part d'envie de découvrir la vie, de croquer la vie à pleines dents, des copines. Elle est passionnée par les chevaux, c'est vraiment sa grande passion. Elle veut d'ailleurs en faire son métier. Elle s'entend très bien avec ses parents et avec ses deux frères. Et donc voilà, c'est un personnage que j'aimerais beaucoup, avec sa part de petites bêtises qu'on peut faire à cet âge-là, mais comme tout le monde.
Bien sûr, elle a 22 ans, elle est toute jeune, et comme vous le dites, elle a tout son avenir devant lui, et sans doute envie d'être libre, et puis de continuer sa vie comme elle l'entend. On verra si d'ailleurs cette attitude déplaît, évidemment, à son amant, Philippe Gillet. Lui, qui est-il, en quelques mots, alors, Philippe Gillet ? C'est un agriculteur du coin, c'est ça, dans ce coin des Ardennes ?
Oui, c'est une famille d'agriculteurs qui est connue, connue pour être une famille de bosseurs, hein, j'ai l'air de travailleurs, comme il y a dans les Ardennes. Ils sont connus aussi pour avoir un caractère assez trempé, avec parfois des épisodes violents qui peuvent être rapportés, hein, voilà, donc toujours avec le prisme des témoins. Et ce sont des personnes qui comptent, comme on dit, sur le secteur. Hein. Il faut savoir que cette zone à l'est de Sedan est une zone qui a pris de plein fouet les diverses crises économiques qu'il y a pu y avoir, notamment tout ce qui peut être acier et tout ce qui peut être textile. Et l'agriculture reste encore un poumon important dans le secteur.
Oui, c'est une région déshéritée, on peut le dire quand même, hein, qui a beaucoup souffert effectivement de la crise économique, où il n'y a pas beaucoup d'argent, etc. Avec une multitude, je pense, de petits villages dans ce coin-là, c'est très agricole.
Oui, c'est très rural. C'est très rural, hein. Il y a une grosse part d'élevage, mais il y a aussi de la polyculture. Et j'allais dire que l'agriculture fait encore partie des secteurs qui marchent.
C'est ça. Donc c'est dans ce périmètre, dans ce paysage qui est installé Philippe Gillet. On a ce soir comme invité dans l'heure du crime, maître Ghislain Fay. Bonsoir maître.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Philippe Gillet. Vous avez entendu ce portrait très brièvement dressé par Philippe Buffren. Qu'est-ce qu'on peut dire de Philippe Gillet ? C'est quelqu'un qui est bien implanté dans cette région. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.
C'est quelqu'un qui, effectivement, n'a pas d'antécédent judiciaire et qui, comme agriculteur, s'est bien implanté dans la région, a pu faire prospérer l'entreprise agricole qu'il a héritée de ses parents.
Mmh. Il ne fait pas parler de lui, c'est ça que je veux dire.
Hein. Il n'est pas connu pour faire parler de lui particulièrement. J'entendais M. Dufresne dire que c'était éventuellement quelqu'un de violent. Comme j'ai pu le rappeler devant la cour d'assises des Ardennes, il n'a jamais été condamné pour des faits de violence, hein, Philippe Gillet. Mmh. Donc c'est plutôt une légende ou un ressenti plutôt qu'une réalité.
Alors voilà, c'est important de souligner tout de même son passé. Il n'a pas de casier judiciaire. Il a perdu sa femme Céline. On va reparler évidemment de cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire, maître Fay, dans quelles circonstances dramatiques il a perdu sa femme ? C'est un accident, c'est ça ?
C'est un accident qui se passe dans une salle de traite. Au moment où les vaches avancent, dans le robot qui était mis en place, visiblement, il y a une excitation du bétail qui s'opère et qui, pour l'une d'entre elles, vient bousculer Céline Gillet sur une rambarde qui délimitait l'accès à la salle de traite. Mmh. Et elle est visiblement écrasée par la vache qui la bouscule.
C'est ça. Et on va évidemment reparler de cet épisode dans cette heure du crime, parce qu'on va voir que la mort de cette femme va ressurgir au fil de l'enquête. Pour le moment, Philippe Gillet est dans la ligne de mire des enquêteurs, mais forcé de constater qu'on ne peut rien lui reprocher. Ses explications sont cohérentes et aucun indice ne le désigne précisément. Après la découverte de la voiture calcinée d'Anaïs Guillaume, les gendarmes recherchent activement la jeune femme. Les investigations se concentrent autour de la ferme de son amant, Philippe Gillet, à Fromis, et dans les terrains que possède l'agriculteur dans le secteur de Carignan. Le 24 avril, les enquêteurs, assistés par une équipe cynophile, organisent des battues. Ils passent au peigne fin la ferme de Gillet et sa maison de Margu, mais ils ne trouvent rien. Le 12 mai, à l'appel des parents de la disparue, 400 personnes participent à une battue dans les bois de Banel, entre France et Belgique. Mais là aussi, aucune trace d'Anaïs. Les parents de la disparue ne cachent pas leurs doutes vis-à-vis de Gillet, qu'ils n'apprécient pas beaucoup. Ils étaient au courant de cette liaison, mais l'a désapprouvée. Ils racontent ainsi aux gendarmes un épisode violent qui serait survenu en 2012. « Notre fille a reçu des coups, elle était amochée. On avait porté plainte à la gendarmerie. On ne cautionnait pas cette relation, mais le ton n'est jamais monté sur le sujet. » Nous étions très liés, indiquent les parents. Philippe Gillet sent bien qu'il est devenu bien plus qu'un simple témoin, mais déjà un suspect dans cette affaire. Au journal L'Ardennais, qui le rencontre, il déclare qu'on n'est pas tendre avec lui et qu'il souffre de cette rumeur qui lui colle à la peau comme un sparadrap, celle d'un individu qui aurait manigancé cette disparition. Il n'a rien à cacher, dit-il, et souhaite que les accusations à son sujet cessent. Il répète n'avoir fait aucun mal à Anaïs Guillaume, avec qui il s'entendait bien. Il confie que la veille de sa disparition, elle lui avait parlé de ses problèmes d'argent. Il l'avait dépannée d'une somme de 400 euros. Elle paraissait alors détendue et soulagée. L'agriculteur est persuadé qu'on veut lui mettre sur le dos cette rocambolesque affaire. On veut faire de lui un coupable idéal. Les auditions de Philippe Gillet ne donnent rien. 2 ans après l'ouverture de l'enquête pour disparition inquiétante, le dossier est transféré au pôle d'instruction de Reims. Le juge Vincent Dufour reprend le dossier. Les investigations s'orientent alors très clairement vers une piste criminelle. Le 31 mars 2015, une nouvelle campagne de fouilles est décidée dans un champ appartenant à l'agriculteur. Une vingtaine de gendarmes arrivés aux aurores ratissent les lieux. Gillet est placé en garde à vue. Entendu pendant 47 heures, ses explications résistent aux doutes des gendarmes. Il est libéré sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Les parents d'Anaïs, qui ont reformulé un appel à témoins, sont dans l'incompréhension. Selon eux, l'agriculteur est bel et bien derrière la disparition de leur fille. Ils s'étonnent qu'une plainte déposée pour violence ait été classée sans suite. 10 mois après ces fouilles, l'affaire qui semblait s'enliser rebondit sans prévenir. Philippe Gillet est mis en examen pour le meurtre d'Anaïs Guillaume et écroué. Maître Ghislain Fay, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, vous êtes, je le rappelle, l'avocat de Philippe Gillet. Alors, à ce moment du dossier, le corps d'Anaïs Guillaume n'a pas été retrouvé. Pourquoi ce renversement brutal dans cette enquête, alors que jusque-là, votre client n'était absolument pas inquiété ?
Contrairement à ce que vous avez énoncé, le magistrat instructeur qui était en charge de la garde à vue de Philippe Gillet n'était pas le même que celui qui a replié le dossier à partir de janvier 2016. Ce qui fait que, visiblement, le regard qu'avait le magistrat instructeur lorsque Philippe Gillet, en mars 2015, a été placé sous le régime de la garde à vue, a estimé qu'au regard de l'audition des éléments qui faisaient suite à cette garde à vue de 47 heures, n'était pas suffisant pour présenter Philippe Gillet devant le magistrat instructeur pour le mettre en examen, estimant que sans doute il n'y avait pas suffisamment d'indices graves ou concordants qui justifiaient.
Et pourquoi alors donc ce revirement finalement, puisque après il va être effectivement mis en examen et puis placé en détention provisoire. Qu'est-ce qui explique ce sont les indices qui ont été trouvés? On parle par exemple des sacs de chaux vives qu'il aurait achetés avant.
Absolument pas. Ces éléments-là étaient déjà connus au moment de la garde à vue de Philippe Gillet. Ce qui, à mon avis, modifie le regard de cette affaire, c'est le changement du juge d'instruction avec l'arrivée de M. Dufour.
Ça, vous l'attribuez à ce changement de magistrat, hein, c'est assez clair.
Moi, je pense que le regard de cette affaire et l'orientation différente qui a été donnée est sans doute l'arrivée d'un nouveau juge d'instruction et un regard différent que celui qu'il peut avoir.
Parce que Philippe Gillet, lui, dit « on veut faire de moi », je l'ai dit, hein, il le dit d'ailleurs dans la presse à l'époque, bien avant, dans l'Ardennais, il dit « on veut faire de moi un coupable idéal ». Vous partagez cette vision dès lors qu'il y a eu ce changement de magistrat ?
Je ne peux pas me permettre de dire que la décision du magistrat instructeur qui délivre Mandel Amelé pour se faire présenter Philippe Gilet et baser sa décision sur ces éléments-là. Mmh. Je pense qu'il a eu un regard différent de son prédécesseur et ce qui, sans doute, a amené à la décision qu'il a prise.
Je comprends bien. Bonsoir, maître Damien Delavenne.
Bonsoir, monsieur Richard.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'ordre du crime. Vous êtes, vous, l'avocat de la partie civile, la famille d'Anaïs Guillaume, qui, on le répète à ce moment-là, à cet épisode de l'histoire, le corps n'a pas été retrouvé. Maître Delavenne, les parents, ils doutent sur cette personnalité et ils estiment qu'il est peut-être derrière tout ça ?
Mais ce qui est certain, Monsieur Richard, c'est que ça fera en avril 8 ans que les parents d'Anaïs, Valérie et Fabrice, mènent un véritable combat pour connaître la vérité. Et au moment de la disparition de leur fils, si on se resitue en avril 2013, il y a des éléments qui peuvent laisser penser que Philippe Gilet a une implication dans cette disparition. Mmh. Après, comme l'a indiqué mon confrère, il y a des investigations qui vont être menées et qui finalement ne déboucheront sur une garde à vue de Philippe Gilet qu'au mois de mars, fin mars 2015, avec les 47 heures de garde à vue que vous avez rappelées. Mmh.
Et est-ce que cette décision, à ce moment-là, satisfait vos clients ? Ils estiment qu'on a fait un grand pas dans cette enquête ?
Mais les parents d'Anaïs, tout comme d'ailleurs ses frères, sa famille et ses amis, n'ont jamais baissé pavillon. C'est un combat pour comprendre ce qu'il a pu advenir d'Anaïs. Ils n'ont jamais été convaincus qu'Anaïs avait pu disparaître volontairement et que derrière cette disparition, il y avait davantage une origine criminelle plutôt qu'une démarche volontaire de la part de leur fille.
Je comprends bien. Et alors vous le dites, maître, hein, il y a des fouilles qui vont être entreprises. Elles vont d'ailleurs jamais cesser. Ça va être de longues campagnes de fouilles qui vont être engagées. Philippe Dufresne, cette fois, journaliste à l'Union Lardonnais. Ces fouilles, à quoi elles ressemblent finalement dans ce paysage des Ardennes ? C'est essentiellement autour de la ferme de Philippe Gilet ?
Non, ça va prendre des secteurs très variés, mais par contre, ça sera toujours autour de terres que peut utiliser Philippe Gilet, ou bien dans le voisinage direct de son habitation. Je pense aux fouilles qui seront menées à Margu, dans un bâtiment qui est plus ou moins en ruine. Mmh. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la région, ça fait du bruit, parce qu'on voit arriver un gros dispositif de gendarmerie à chaque fois, avec des techniciens, avec des moyens techniques, hein, des pelleteuses, des choses comme ça. Et à chaque fois, il y a ce doute. Est-ce qu'on va finir par retrouver ou non une trace d'Anaïs Guillaume ? Faut avoir bien conscience que pendant un bon bout de temps, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai pu vivre, il y en a qui n'hésitaient pas à blaguer en me disant « Vous aurez l'air tous malins quand Anaïs vous enverra une carte postale du Brésil en disant qu'elle est partie là-bas avec son petit copain.
Ouais. »
Il y avait aussi ce flou. Hein,
ouais, c'est ça. Il y a cette part d'incrédulité, Philippe Dufresne, hein, qui existe.
Oui, d'incrédulité ou de volonté de repousser une hypothèse criminelle. Hein.
Avec encore un petit mot.
Y compris par des magistrats, qui ne sont plus en poste aujourd'hui. Mais oui. Je sais qu'il y a un procureur notamment qui avait trouvé très marrant de lancer ça à un moment donné.
Ah, donc c'est oui, donc il y avait une part de doute dans cette histoire. Encore un petit mot, Philippe. Il y a des éléments tout de même qui sont au dossier déjà depuis un petit bout de temps. Il y a ces fameux sacs de chaux-vives qui ont été achetés par Philippe Gilet. C'est un produit, on le sait, qui a le pouvoir de détruire les corps. C'est troublant. Il y a le fait que la voiture qui a été retrouvée d'Anaïs a été retrouvée au même endroit où un des frères de Philippe Gilet avait commis une escroquerie à l'assurance et avait fait brûler une voiture. Tout ça, ça fait un petit peu beaucoup, c'est ça ?
Mais il y a toujours des éléments où il y a « oui, mais ». La voiture est retrouvée là, elle est brûlée, on peut penser pourquoi pas un vol, etc. Oui, mais les plaques d'immatriculation ne sont plus là et le siège conducteur est reculé beaucoup plus que la taille d'Anaïs. Concernant la chaux-vive, on l'utilisait dans le temps pour désinfecter les stabulations, hein, les salles qui servent à la traite des vaches laitières. Oui, mais ça n'est plus préconise actuellement pour des questions de manite ou des choses comme ça. Et de toute façon, le volume qui est là, les agriculteurs me disent non, c'est pas suffisant.
Donc ça interroge effectivement les enquêteurs. Trois ans après la mise en examen de Philippe Gillet, le 4 mars 2018, le juge d'instruction renvoie le suspect devant les assises des Ardennes pour l'assassinat d'Anaïs Guillaume et, surprise de taille, pour le meurtre de son épouse, Céline Gillet. Ce 25 mars 2019, Philippe Gillet, 45 ans, pull beige, stature trapue, apparaît dans le box vitré de la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières. Procès prévu pour durer jusqu'au 3 avril. Il est accusé tout d'abord d'avoir assassiné sa maîtresse, Anaïs Guillaume. Introuvable malgré les recherches, 2 mois seulement avant le procès, les enquêteurs ont lancé une énième campagne de fouilles, cette fois dans le hameau de Sorel, près d'un ancien silo, sur une parcelle cultivée par Gillet. Malgré la mauvaise météo, beaucoup de neige, les gendarmes ont retourné le terrain. Dernière chance de retrouver le corps d'Anaïs, mais aucune trace de la jeune femme. Lors des débats, l'accusation égrène les indices retenus contre Philippe Gillet. Il est décrit sous son mauvais jour, un homme à femme, capable de violence, qui, selon certains témoignages, n'aurait pas supporté qu'Anaïs veuille le quitter pour un autre homme. Selon l'avocat des parents, maître Damien Delavenne, la cassure se serait produite au printemps 2013. Anaïs, tombée enceinte, aurait avorté puis décidé de s'en aller en disant qu'elle avait eu le déclic pour une autre personne. Côté éléments à charge, il y a encore l'achat de 2 sacs de 25 kg de chaux vifs, un produit qui permet de dissoudre les corps, ou encore la téléphonie, le téléphone portable de la victime qui aurait été manipulé pour faire croire à des appels après sa disparition. Comment Anaïs aurait-elle été tuée ? Réponse du major Didier Turc, le directeur d'enquête. On pense à l'étranglement. Gillet utilisant cette pratique sexuelle particulière avec ses partenaires. Philippe Gillet est également accusé de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il aurait ainsi tué son épouse en la frappant violemment et maquillé son crime en accident. Il a toujours prétendu que ce jour de janvier 2012, son épouse Céline, 34 ans, avait trébuché et avait été écrasée par une vache qui l'aurait piétinée et donné des coups de sabot. L'épouse serait restée ainsi coincée sous l'animal pendant un quart d'heure avant que son mari ne puisse la dégager. Le procureur de Reims ne voulait pas poursuivre Gillet pour cette mort, mais le juge a estimé le contraire. Mort qu'il trouve très suspecte. Lors de l'enquête, il a ainsi désigné un expert vétérinaire. Celui-ci a conclu que la vache n'a pas pu tomber de la façon indiquée par l'agriculteur. En outre, les blessures constatées par un médecin ne correspondraient pas à un piétinement. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais et l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, vous étiez à ce procès d'assises. Décrivez-nous, à quoi ressemble Philippe Gillet, cette apparition dans le box ?
On a un Philippe Gillet qui est calme, qui est plutôt presque un peu apeuré ou ému par moment. Ça tranche complètement avec les témoignages qu'on va avoir, avec des témoignages que moi j'ai pu avoir ou avec ce que on a pu avoir au moment des fouilles. Hein. On a quelqu'un qui est beaucoup moins imposant, on va dire.
Ah, c'est ça, il est plus dans la discrétion, il écoute plus qu'il ne parle, c'est ça ?
Oui, non, mais quand il parle, il va décrire une relation plutôt amoureuse. Alors tantôt amoureuse, tantôt sexuelle, c'est ça qui est un peu perturbant dans l'affaire. Il tranche aussi complètement avec le personnage que moi j'ai pu avoir au téléphone. C'est quand j'ai commencé à reprendre le dossier en 2015, je l'ai appelé. C'était le premier que j'ai appelé, puisque j'avais lu l'interview faite par mon confrère quelques années avant, dans lequel il expliquait que Anaïs Guillaume était la femme de sa vie, parce que elle préférait notamment manger un sandwich dans le tracteur en regardant les chevreuils plutôt que d'aller au restaurant, etc. Je l'avais appelé en disant cet homme-là doit avoir forcément envie de savoir ce qui se passe dans cette affaire-là, et le coup de fil s'est très mal passé. J'ai eu quelqu'un qui était excessivement autoritaire, pour ne pas dire hostile, et notamment cette expérience que j'ai eue là, c'était absolument pas le même personnage qui était aux assises.
Autoritaire peut-être parce que tout simplement excédé par les coups de fil qu'il pouvait recevoir, et avec cette histoire qui devait effectivement le poursuivre.
Mais là, en lui disant, écoutez, je pense quand je vois votre interview, je pense qu'elle doit beaucoup vous manquer, et moi je ne veux pas que cette affaire tombe dans l'oubli, parce que si vous étiez à ce point-là en phase avec elle, il faut qu'on la retrouve.
C'est ça. Et donc là, vous aviez été pas très bien reçu.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Maître Ghislain Fay, avocat de Philippe Gillet, j'ai très rapidement évoqué les conclusions, si on peut dire en tout cas ce qu'ont dit les experts psychiatres, qui parlent d'un égocentrique, un homme qui a un besoin de dominer, qui a ce désir de toute puissance. On peut dire que c'est pas très un portrait très flatteur qui est fait de votre client à cette audience.
Je reviens un peu, monsieur Dufresne, sur...
Allez-y.
Monsieur Dufresne ne dépeignait au fil de l'audience Philippe Gillet tel qu'il ne le pensait pas pouvoir se positionner. En fait, on a eu à l'audience Philippe Gillet tel qu'il est réellement dans la vie, tel qu'il peut apparaître pour ceux qui le connaissent bien. Mm-hmm. Pour conclure, je dirais que effectivement, il a été profondément agacé sur les accusations qui pouvaient être portées contre lui, notamment par la presse locale. Et je peux comprendre que M. Dufresne, qui n'a pas été bien reçu, avait une vision différente de celle qu'on a pu voir à l'audience devant la cour d'assises des Ardennes.
Alors, pas très bien reçu pour un journaliste, ce sont des choses qui arrivent vraiment tous les jours, c'est effectivement assez fréquent, et c'est pas très grave au fond. Mais je vous posais la question, Maître Fay, pardonnez-moi d'insister, mais les experts psy, qui, les expertises, ça vaut ce que ça vaut, à une audience, on est bien d'accord, mais quand ils disent ce désir de dominer, cette toute-puissance, ça vous interpelle, ça, lorsque vous entendez ça à l'audience ?
Ah ben ça nous a effectivement interpellé à l'audience. Quand on connaît la personnalité de l'expert-psychologue qui a expertisé Philippe Gillet, on ne peut que s'interroger sur les conclusions qu'il a pu en tirer. Mmh. Moi, je les ai contestées. Je pense que celui qui devrait être analysé est plutôt le psychologue que Philippe Gillet.
Voilà, qui est dit, donc il se reconnaîtra évidemment dans vos propos. Maître Damien Delavenne, autre invité dans l'heure du crime ce soir, et vous êtes également avocat de la famille d'Anaïs Guillaume, la partie civile. Alors vous êtes évidemment à ce procès, je suppose que c'est un moment très très important pour vos clients, les parents d'Anaïs. Il y a ces charges qui s'accumulent un petit peu contre l'accusé, on l'a dit, hein, les sacs de chaux vives, et puis cette fameuse téléphonie, qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça? Est-ce que ça conforte le jugement que pouvaient porter vos clients?
Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que déjà par rapport à la personnalité de Philippe Gillet, on a un homme froid qui s'est présenté à l'audience en complet décalage avec les sentiments qu'il avait pu décrire à l'égard d'Anaïs. N'avoir aucune compassion à l'égard des parents, ça a déjà été particulièrement troublant et choquant. Il est vrai que vous faites état, Monsieur Richard, de différents éléments dans le dossier, et la téléphonie, l'exploitation de la téléphonie, elle est effectivement très interpellante, puisque on a des puces qui ont été manipulées d'un téléphone appartenant à Céline Gillet, qui est décédée quelque temps avant, avec la puce d'Anaïs Guillaume insérée dans ce téléphone, des échanges de SMS, et c'est vrai que on a ensuite cette disparition qui intervient, et plus aucun signe de vie d'Anaïs. Donc c'est vrai que la téléphonie, c'est un élément supplémentaire qui vient troubler le dossier concernant l'analyse qu'on peut faire à l'égard de Philippe Gillet.
Je vous retrouve, Maître Ghislain Fay, avocat de Philippe Gillet. Juste un mot, est-ce que vous êtes surpris à l'époque de le voir renvoyé aussi pour la mort, sans intention de la donner, de son épouse Céline?
Ah ben, je suis d'autant plus surpris que il y avait une décision du parquet à l'époque qui avait décidé de classer cette affaire en accident du travail et qui même plus avait autorisé l'incinération du corps d'Anaïs Guillaume. Mmh. Et ensuite
De Céline Guillaume.
De Céline, pardon. Et ensuite, bien évidemment, on a des investigations qui sont menées. Les lieux sont complètement différents de ce qu'ils étaient avant. On a un problème de sémantique entre l'expert qui est désigné et puis les médecins urgentistes qui sont intervenus, qui ont délivré le permis de guillemets et le reste. Oui, effectivement, on est profondément surpris de la décision du magistrat instructeur de renvoyer Philippe Gillet devant les assises pour le meurtre de Céline Gillet.
Le verdict tombe. 22 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Philippe Gillet pour l'assassinat d'Anaïs Guillaume. L'agriculteur est en revanche acquitté pour le meurtre de sa femme. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Anaïs va être retrouvée. 48 heures après le verdict de la cour d'assises des Ardennes, le parquet général juge illégal la condamnation de Philippe Gillet. Question strictement juridique. Quand l'unanimité des voix du jury n'est pas réunie et que la peine encourue est de 30 ans pour la préméditation, la peine prononcée ne peut pas excéder 20 ans, 22 ans dans le cas présent. L'affaire doit donc être rejugée. La défense de l'agriculteur aurait de toute façon fait appel. Un sursaut de procédure sans commune mesure avec l'événement qui va suivre 5 mois après la condamnation. Septembre 2019, l'avocat de l'accusé, Ghislain Fay, reçoit un courrier anonyme qui mentionne l'endroit où se trouverait Anaïs Guillaume, un tas de fumier déjà fouillé par les gendarmes à la ferme de Gillet. La lettre indique qu'Anaïs a été séquestrée en Belgique et exonère le cultivateur, le culto, comme il est écrit, de toute implication. Faites les recherches, rendez le corps aux parents et arrêtez les véritables coupables. Dit la lettre, Maître Fay transmet ce courrier à la justice, qui traîne. La fille aînée du condamné, Victoria Gillet, décide alors d'aller elle-même fouiller le tas de fumier avec un ami équipé d'une tractopelle. Le lundi 28 octobre au matin, l'engin creuse dans le tas de fumier, 15 mètres de long, 4 de large, 40 cm de hauteur. Un os de 36 cm apparaît, les gendarmes sont aussitôt prévenus. Un squelette allongé sur le dos est mis au jour. L'ADN confirme qu'il s'agit bien de celui d'Anaïs Guillaume. Incroyable découverte. Lors de l'enquête, les gendarmes avaient procédé à la fouille de ce tas de fumier, mais sans excavation. Un géoradar avait été utilisé, mais n'avait révélé aucune cavité suspecte. Les conditions météo épouvantables et la neige avaient à l'époque fortement perturbé les recherches. Ce corps a-t-il été abandonné là, après les fouilles de 2015, scénario qui prouverait la bonne foi de l'agriculteur? Les experts ne le croient pas. Ils estiment que le corps d'Anaïs a été déposé ici juste après sa mort et pas 2 ans après. Ils prélèvent sur place de la chaux vive, produit acheté par l'agriculteur avant le crime. Ils soupçonnent en fait Gillet d'avoir orchestré cette mise en scène. Victoria Gillet est mise sur le grill. La fille aînée finit par répondre que son père lui a demandé d'écrire cette lettre anonyme. Il lui a dicté presque mot à mot en prenant soin de la truffer de formules belges, comme si l'origine du crime se trouvait de l'autre côté de la frontière. Victoria a fait tout cela pour lui, car elle est persuadée de son innocence. La jeune femme ne sera pas poursuivie, mais pour les enquêteurs, l'agriculteur a signé là une ultime tentative de manipulation pour pouvoir échapper en appel à une condamnation. Maître Damien Delavenne, avocat de la famille d'Anaïs Guillaume, est ce soir en ligne avec nous dans l'heure du crime. Incroyable rebondissement que la découverte de ce corps. Je suppose que les parents sont à la fois heureux et terrifiés, on peut le dire comme ça.
Complètement. Vous avez rappelé la date de découverte du corps d'Anaïs, 28 octobre 2019. Les obsèques d'Anaïs n'ont eu lieu que le 2 février 2021.
Ça sera très long, effectivement.
Tout à fait.
Et donc, que penser de la découverte de ce corps avec cette lettre? Évidemment, on est stupéfait. Ce scénario incroyable, rebondissement.
Le dossier d'Anaïs, ça représente à peu près 10 000 pages quand on cumule toutes les investigations qui ont été réalisées. Et dans ces 10 000 pages, on a bon nombre de lettres anonymes qui ont pu être transmises à l'époque, des personnes qui se sont manifestées avec leur identité, des personnes qui prétendaient avoir vu ici et là Anaïs, que ce soit sur le territoire français ou dans l'Union européenne. Et c'est vrai que on trouve très troublant que cette lettre anonyme qui va parvenir, vous l'avez rappelé, à Maître Fay, le conseil de Philippe Gillet, à Monsieur le procureur de la République, à nous et puis à d'autres journalistes, que cette lettre attise autant de convoitises de la part de Philippe Gillet pour mener un certain nombre d'investigations. Et sur cette partie du dossier, on aura l'occasion d'en débattre devant la cour d'assises.
Bien sûr, au procès à venir, le procès à l'appel à venir. Maître Fay, on vient de parler de vous, avocat de Philippe Gillet, c'est vous qui avez reçu cette lettre. Quand vous la recevez, cette lettre, on l'a dit, il y a plusieurs courriers anonymes qui circulent dans le dossier. Vous la trouvez sérieuse et importante?
Alors, pour rétablir un peu les faits, je dois vous préciser que je ne suis pas le seul à avoir été destinataire cette anonyme. Mmh. Je pense que d'une façon concomitante, j'en suis moi destinataire, mais aussi le procureur public de Charleville, la presse, et puis effectivement l'avocat de la partie
d'accord.
civile.
Alors vous la transmettez évidemment à la justice à ce moment-là. Hein.
Moi, je prends les précautions nécessaires à la réception de ce genre de documents. Je fais un courrier recommandé au procureur de la République de Charleville en lui indiquant que j'ai reçu ce courrier. Je lui donne le nom des personnes qui ont pu le toucher et je le mets dans une enveloppe de telle sorte que les investigations sur ses têtes puissent être menées.
D'accord.
Alors, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'il a fallu plus d'un mois à la suite de la réception de ce courrier pour que finalement, quand Victoria Gillet, à la demande de son père, va faire les fouilles, elle permet de découvrir la dépouille d'Anaïs Guillaume. Alors, vous le signaliez déjà précédemment, et mon confrère Delavenne le disait justement, il y a eu beaucoup d'investigations qui ont été menées à la suite de ces lettres anonymes. Ouais. On doit s'interroger pourquoi, alors même qu'elles semblent capitales, aucune investigation ne sont menées à l'initiative de la justice.
Pourquoi ça n'a pas bougé? Et en deux mots, Maître Fay, comment expliquer l'attitude de Victoria Gillet qui va dire bah, « c'est mon père qui m'a demandé de faire ça, etc. On s'est vu en prison, il m'a dicté quasiment la lettre. » Qu'en pensez de cette attitude?
Alors, je ne vais pas dévoiler ce qu'on viendra exposer.
Évidemment, je vous laisse la primeur
Ce que je dois dire, c'est que, et là je porte un peu la parole de ces deux enfants qui ont perdu dans un temps très restreint à la fois leur mère, leurs deux grands-mères et leur père, parce qu'ils étaient incarcérés. Elles ont toujours été convaincues de l'innocence de leur père. Et puis finalement, sur ce qu'on viendra exposer devant la cour d'assises, les conditions où Philippe Gillet a obtenu les renseignements, il aurait pu s'y prendre autrement, dont acte. Par contre, les éléments qu'il dévoile permettent à la fois de découvrir dans une zone qui a déjà été fouillé, contrairement à ce qui est allégué par les enquêteurs, ça a été fouillé et creusé, et que maintenant on va soutenir que ce n'est pas le cas, ça sera un débat effectivement qui aura lieu devant la cour d'assises de la Marne.
Philippe Gillet va dans tous les cas de figure être questionné au procès sur cette fameuse lettre anonyme qu'il aurait dictée. L'accusé maintient sa ligne de défense, il est injustement pointé du doigt. Du 6 au 23 avril, Philippe Gillet va de nouveau comparaître aux assises, en l'occurrence celle de la Marne à Reims. L'accusation n'a pas varié, il doit répondre de l'assassinat d'Anaïs Guillaume et du meurtre maquillé en accident de son épouse Céline. Il avait écopé en 2019 de 22 ans de prison pour le premier crime, acquitté pour le second. L'agriculteur nie les faits qui lui sont reprochés, il estime que la découverte du corps ne signifie en rien qu'il l'a déposé lui-même à cet endroit lors des fouilles. Philippe Gillet aurait fait une remarque à un gendarme laissant entendre, je cite, que ce n'était pas parce que les enquêteurs seraient amenés à trouver le corps qu'il serait lui directement impliqué, quand bien même si le terrain lui appartient et qu'il le cultive. Quoi qu'il en soit, la mise au jour du corps d'Anaïs change en grande partie la physionomie de ce procès où l'accusé encourt 30 ans de prison pour assassinat. Il faudra également qu'il s'explique sur la mort de son épouse, tuée selon lui par une vache. Un accident, répète-t-il. 15 mois après la découverte de la dépouille d'Anaïs Guillaume dans un tas de fumier, celle-ci a été rendue le 26 janvier à ses parents, Fabrice et Valérie Guillaume, résidant à Blagny. Un soulagement et une souffrance, explique le père de la jeune fille au journal L'Ardennais, qui, après tout ce temps, a enfin pu se recueillir devant le cercueil d'Anaïs. On ne vit pas, on survit. C'est Anaïs qui nous donne la force de poursuivre, répétait de son côté la mère de la jeune femme, avant que le corps ne soit enfin découvert, des parents qui seront présents au deuxième procès de Philippe Gillet. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union L'Ardennais, pour parler un petit peu, non pas grossièrement, mais un petit peu de façon populaire, dirons-nous, il joue gros Philippe Gillet parce que la donne a changé. Est-ce que c'est en sa faveur ou pas la découverte finalement du corps d'Anaïs?
J'ai toujours risqué d'aller prendre des paris sur les assises, donc j'ai bien m'en garder. D'un point de vue personnel, moi je me demande quand va-t-il nous dire la vérité, puisqu'il a eu l'occasion, s'il est au courant de l'endroit où se trouvait le corps d'Anaïs, il a eu largement l'occasion de le dire au moment du premier procès ou après. Bon, il a pris apparemment une autre méthode. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que ça veut dire que tout ce qui avait été raconté au début était faux. Voilà, donc je me demande quand aurons-nous enfin la vérité.
Alors, Maître Ghislain Fay, justement, vous êtes l'avocat de Philippe Gillet. Pourquoi ? C'est une question très basique. Évidemment, vous allez en parler lors de ce procès d'appel aux assises. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit plus tôt où se trouvait le corps, puisque apparemment il le savait ?
Vous savez, dans ce dossier, on a travaillé avec mon confrère Hugues Vigier, qui sera avec moi à l'audience devant la cour d'assises. Mmh. Et bien évidemment, on a évoqué ce sujet avec Philippe Gillet dans la préparation de cette audience.
Bien sûr.
On précisera devant les magistrats et les jurés de la cour d'assises d'appel de la Marne les éléments qui ont amené Philippe Gillet à donner connaissance des éléments qui ont permis de découvrir du corps d'Anaïs Guillaume. Ah, c'est pas si simple que voudrait le dire Monsieur Dufresne. Mmh. C'est pas des éléments qu'il disposait au moment de la cour d'assises des Ardennes.
D'accord.
Et on s'en expliquera.
D'accord. Donc voilà, vous maintenez le suspense, mais c'est tout à fait normal. Vous réservez vos propos pour la cour d'assises. Est-ce que tout de même on peut dire, maître Fay, que la découverte du corps va être vraiment au centre de ce nouveau procès? C'est vraiment l'élément capital qui va être central dans ce procès.
Mais la différence avec l'audience de la cour d'assises des Ardennes et celle-ci, c'est que, pour le coup, les hypothèses qu'on pouvait émettre sur le fait que Anaïs Guillaume avait disparu et qu'elle serait peut-être ailleurs que là où on pense, ça sera écarté. Ce qui est assuré, malheureusement, pour les parents, c'est que cette jeune femme est définitivement décédée et est maintenant enterrée. Mmh. C'est effectivement un élément important qui change l'orientation et qui va changer les débats devant la cour d'assises. Mmh. Et comme je vous le répétais, et je vous le disais déjà avec Maître Vigier, on a bien évidemment préparé ces éléments-là, on pourra les exposer devant la cour d'assises.
Bien sûr, vous avez, comme on dit, travaillé le dossier et de manière assez continue avec votre client. Justement, j'ai envie de vous poser cette question. Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui, Philippe Gillet ? Il continue à démentir les faits, on le comprend bien, mais il a envie de s'expliquer encore plus profondément, d'aller plus loin ?
Je pense que Philippe Gillet, il a conscience que, comme le disait Monsieur Dufresne, il risque gros, hein, parce que
bien sûr.
Vous disiez 30 ans, pour les faits qui lui sont reprochés, c'est la perpétuité. Mmh. Donc c'est soit l'acquittement, soit une lourde peine qui va lui être prononcée. Il sait aussi que c'est une cour d'assises d'appel et que derrière, il y a très peu de chances que cette décision soit modifiée ou changée.
Bien sûr.
C'est un homme inquiet pour lui, inquiet pour sa famille, et bien évidemment inquiet des conséquences de ces 3 semaines d'audience qui arrivent.
Il continue à dire que lui, il a été, j'allais dire piégé, mais c'est entre guillemets, en tout cas qu'il n'a rien à voir dans tout ça, que finalement on a fait de lui un coupable. C'est ce qu'il continue à dire, Philippe Gillet.
Je ne sais pas s'il continue de dire qu'il a été piégé. Ce qu'il continue de dire, c'est que il comprend pas ce qui s'est passé. Et il y a pour lui des éléments troublants pour lesquels il n'arrive pas à apporter des explications. Mon confrère de la veine l'expliquait, notamment la téléphonie. C'est vrai que pour nous, c'est un point difficile parce que c'est tellement technique et tellement évident que c'est compliqué de contourner. Mais à quelque chose dont on ne connaît pas et on ne maîtrise pas la provenance, il est difficile de s'expliquer, même devant les magistrats.
Tout à fait. Maître Damien Delavenne, avocat de la famille d'Anaïs Guillaume, les parties civiles, donc, dans quel état d'esprit sont aujourd'hui, à la veille de ce procès, quasiment les parents de la victime ?
Vous savez, ce sont des parents qui sont effondrés. La famille, elle est anéantie, les amis sont complètement démunis, même s'ils sont toujours présents autour des parents d'Anaïs. Il y a une attente très forte, ils veulent comprendre dans quel contexte est-ce qu'Anaïs a été assassinée dans la nuit du 16 au 17 avril 2013, pour pouvoir faire leur deuil complet.
Et vous avez espoir d'avoir cette réponse à ce procès ?
Nous l'espérons vivement. Ce qui est troublant une nouvelle fois dans le dossier, c'est qu'on retrouve le corps d'Anaïs sur une parcelle qui appartient à Philippe Gillet, avec un corps qui est recouvert de chaux.
Mmh. Donc c'est un vrai espoir, c'est ce que je veux dire, c'est que vos clients attendent la vérité dans cette affaire. Hein. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Merci beaucoup, maître Damien Delavenne, maître Philippe Dufresne, Philippe Dufresne, et puis maître Ghislain Fay, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec le dossier Philippe Gillet. Un deuxième procès très attendu et un corps, celui d'Anaïs Guillaume, qui, quoi qu'il en soit, pèsera sur le verdict. On suivra sur RTL ce procès. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Visset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous ensemble cette heure du crime.